Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Un plateau comme ça, on mange la moitié. C'était fantastique, on était bénis à ce niveau-là. Ça a bien commencé. Et avant de manger, moi j'ai dit « Seigneur, j'aimerais ça avoir ta faveur aujourd'hui. » J'ai dit « Premièrement, je te demande d'avoir un bon siège et également j'aimerais ça avoir ta faveur aujourd'hui. » Vous savez, la Bible dit que Dieu nous entoure déjà de sa faveur, mais moi j'ai osé le demander en plus. Sauf qu'en tout cas, on arrive à l'église et finalement, on est bénis. Je m'assis, j'ai la place première rangée devant John Starnes et Janet Pascoe qui chantaient. Déjà là, c'est bien. Et je vais vous montrer juste premièrement une des photos. Ah, j'ai tout oublié les annonces avant. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va oublier les annonces. C'est parce qu'on va sauter les annonces. Et puis, je vais revenir aux annonces. Parce que j'ai des choses quand même intéressantes, là. OK, je voulais vous montrer cette photo-là. Ça, c'est quand j'écoutais la musique de ce style-là. Ça fait longtemps que j'aime la musique Southern Gospel, OK? C'est mon crime. Et je sais, au Québec, c'est pas très, très, très populaire, mais en tout cas, c'est pour ça que je chantais aux États-Unis. Hein? C'est pas de la musique du Québec, typiquement. Mais en tout cas, ça, c'est quand j'étais petit. Vous voyez, j'étais déjà un fan. Et pour vous parler, je parlais de Janet et de John Starnes. Ça, c'est le genre de réunion où ils ont chanté pendant des années de temps. Et puis là, bon, en tout cas, le Seigneur m'a donné des sièges en avant, première rangée. J'étais très béni. Mais là, par la suite, John Starnes a posé une question à l'auditoire. Il a dit, est-ce que des gens, ça, pendant la soirée, il voulait rendre ça des contracts. Il a dit, est-ce que des gens qui ont des questions? Ça fait que là, il y a quelqu'un qui a dit une question, comment vous avez été sauvés? Là, il raconte un petit peu ensemble comment les deux ont été sauvés. Ce n'est pas un couple en passant, c'est deux chanteurs qui ont chanté pour le ministère de James Swaggart. En tout cas, ça fait que là, il parle un petit peu. Puis moi, je n'avais pas de questions, sauf je voulais leur dire comment je les appréciais. Ça fait que j'ai dit, est-ce qu'on peut vous dire comment on vous aime? Et puis là, il a dit, certainement. Et puis j'ai dit comment j'étais vraiment béni parce que pour moi, c'était lui mon mentor dans la musique et Janet, c'était comme mes deux plus favoris de toute ma vie. Puis comme je disais à Mathilde, comme pour certains, ça serait de rencontrer Céline Dion. Ça serait certainement très, très merveilleux aussi, là. Mais je peux vous dire, moi, là, la personne, c'était John Starnes et Janet Pascoe c'était mon summum. Et une autre chose, moi, j'ai travaillé, comme vous savez, au Miracle Channel, puis j'ai passé en entrevue plein de personnes, et il y avait plein de gens là-bas qui disaient, « T'as-tu pris ta photo avec la personne? T'as-tu? » Puis je peux vous dire, ça, j'étais un petit peu indifférent, j'étais content, là, c'était bien de passer du moins en entrevue, mais hier soir, je disais à Mathilde, moi, c'était vraiment pour moi, là. C'était des gens, pour moi, j'étais vraiment intéressé de rencontrer. En tout cas, ce que là, John Stern, il demande la question, y a-t-il quelqu'un qui a une question? C'est-à-dire que là, je pose ma question. J'ai dit, je vous ai toujours apprécié. Puis là, après, il dit, tu sais-tu chanter, toi? J'ai dit, oui. Il dit, viens chanter avec nous autres. C'est-à-dire que ça, c'est eux autres qui chantaient. Et là, il m'appelle sur l'estrade. Et là, j'ai chanté avec John Starnes et Janet Pascoe. En tout cas, j'ai trouvé ça, c'était une cerise sur Sunday. Et une photo avec mon épouse et Janet. En tout cas, moi, j'ai dit, quand on dit on est chouchou du bon Dieu, on est chouchou du bon Dieu. Puis pour vous autres, peut-être, c'est comme, c'est qui ce monde-là? Vous ne les connaissez pas, puis ça ne vous bénit pas nécessairement. Mais Dieu est préoccupé avec qu'est-ce qui nous bénit. Hein? Puis en tout cas, moi, j'étais super, juste des entendre chanter, j'étais à 20 pieds d'eux autres, je les entendais chanter, j'étais comme, wow. Ma femme, elle me dit, « Tu pleures-tu? » J'ai dit « Non, je pleure pas. » Mais j'étais béni. Et je voulais vous partager ça parce que vous savez, des fois, je parle comment on est béni puis il faut s'attendre à des grandes choses de la part de Dieu. Puis j'ai juste dit une petite prière. « Seigneur, donne-moi ta faveur aujourd'hui. » Et Seigneur, en tout cas, il m'a vraiment donné sa faveur. En tout cas, on a trouvé ça bien le fun. Bon, maintenant, l'Académie de la foi. Mais en tout cas, je voulais juste vous lire une couple de versets concernant ce que j'ai vécu. Dans Psaume 37, verset 4, ça dit, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Peut-être que vous avez des désirs aujourd'hui, des choses qui sont vraiment dans vos cœurs et que vous souhaitez vivre. Mais en tout cas, moi, je crois que le Seigneur veut vous bénir comme ça. Et dans Éphésiens 3, verset 20, ça dit « Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandions ou même imaginons par la puissance qui agit en nous. » Ça veut dire que Dieu, il fait même plus qu'on s'attendait. Je peux vous dire, moi, je ne m'attendais pas de vivre ça hier soir, mais c'était au-delà. Et dans le psaume 145, verset 9, ça dit « L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Puis au verset 19, ça dit « Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. » En tout cas, c'est tout bénissant ce verset-là. Hein? Amen. Ça fait qu'on va prier pour les enfants, pour l'Académie de la foi. Et puis, ils ont enduré mon chant. Je ne sais pas si c'était difficile pour eux autres. Ce n'est pas leur style. Mais en tout cas, j'ai été heureux de vivre ça hier soir. Puis, je voulais le partager avec vous. Personne n'a sa Bible. Donc, excellent. Amen. La parole de Dieu, c'est ce qui nous affranchit. Amen. Et la parole de Dieu, ça a le pouvoir de changer nos vies. Comme on se laisse renouveler par la parole de Dieu. Puis c'est merveilleux de rencontrer des gens qui ont été renouvelés par la parole. C'est tellement rafraîchissant de voir comment Dieu veut libérer son peuple. C'est le cœur de Dieu qu'on soit libre. Et qu'est-ce que j'avais sur mon cœur cette semaine? C'était de vous enseigner concernant la guerre spirituelle dans laquelle nous sommes présentement et que Dieu nous appelle à être violents en esprit, qu'on puisse avoir cet esprit en dedans nous qui est prêt à aller à la guerre. Une déclaration de guerre spirituelle pour reprendre l'héritage qui nous appartient comme enfants de Dieu. Croyez-vous ça aujourd'hui, que Dieu s'attend à vous de faire quelque chose pour recevoir votre héritage? Amen. Alors, le premier texte où on va aller ce matin, ça va être dans Éphésiens chapitre 6 et le verset 12. On va commencer avec un mot de prière. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ta parole. Seigneur Dieu, je te prie que ton esprit ce matin nous éclaire et nous donne vraiment, Seigneur, ce qu'on a besoin d'entendre. Que ce soit des paroles de vie. Au nom de Jésus. Amen. Et la parole, c'est déjà des paroles de vie, mais par son esprit, Dieu nous accorde la révélation pour recevoir qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de comprendre. Alors, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il est écrit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, on sait qu'il y a une guerre spirituelle présentement. Et Dieu, même s'il nous donne un héritage, même si Dieu veut être bon envers nous, il y a des choses qu'on doit faire pour recevoir cet héritage-là. Et l'ennemi de nos âmes, il veut nous empêcher, premièrement, de connaître qu'est-ce qui nous appartient. Ou si on connaît qu'est-ce qui nous appartient, il veut nous endormir spirituellement pour pas qu'on puisse aller le chercher. C'est ça qu'il veut faire, nous endormir, nous empêcher d'être violents en esprit. Mais heureusement, on se laisse pas endormir ce matin. Et une des choses qu'on doit premièrement faire dans cette déclaration de guerre, c'est de rencontrer notre capitaine. C'est qui notre capitaine ici ce matin? C'est Jésus. Le Seigneur Jésus, c'est certainement notre chef. Hébreux 12, verset 2, il est écrit: gardons les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, ou celui qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. C'est merveilleux. Quand on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, on découvre que non seulement il est le sauveur de l'humanité, il est également notre Seigneur. Et quand il est le Seigneur, il est notre chef. Ça veut dire que quand il nous dit « tourne à droite », on tourne à droite. Quand il nous dit « tourne à gauche », on tourne à gauche. Hein? À moins qu'on ait le cou raide, comme on trouve dans la parole de Dieu. Mais si on marche vraiment avec le Seigneur Jésus, Dieu ici nous dit qu'il est notre chef. Et ce chef-là nous guide dans la bonne direction. Et dans Jean 14, verset 21, il est écrit: celui, c'est Jésus qui parlait ici, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et vous savez, ce texte-là, je l'ai lu bien des fois, mais cette semaine, le Seigneur m'a vraiment touché là-dedans parce que dans le grec, le mot connaître, je me ferai connaître à lui, dans le grec, c'est emphanizo. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais ça veut dire se manifester. Et dans le monde dans lequel nous vivons et dans l'âge dans lequel nous vivons, nous avons besoin plus qu'une religion. Nous avons besoin d'une touche surnaturelle de la part de Dieu. Et moi, je crois que Dieu veut se manifester aujourd'hui dans nos églises et dans nos vies personnelles. Dieu veut se manifester. Puis c'est merveilleux, on lit ce texte-là. Jésus a dit, « Celui qui a mes commandements, pas juste les avoir dans la main, mais celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Si on aime vraiment Dieu, on va garder sa parole. « Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Ça veut dire que Dieu veut devenir un intime, et non seulement juste intime avec nous, il veut se manifester à nous. Il veut être tellement présent que vous allez savoir qu'il s'est manifesté dans vos vies. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous touche de savoir que Dieu veut se manifester à moi? Amen. Puis on sait que toutes les forces de l'enfer voudraient nous empêcher de recevoir cette manifestation-là. Ça fait que qu'est-ce que l'ennemi fait? Il nous fait croire qu'on a encore des choses qu'on doit nécessairement régler avant que Dieu puisse nous toucher. Vous savez, quand on vient au Seigneur avec tous nos problèmes, avec tous nos péchés, on a simplement à lui dire, « Seigneur, je te demande de me pardonner, de me laver. » Et à ce moment-là, Dieu veut se révéler à nous. Il y a des gens qui pensent, « Bien, moi, si seulement je suis assez bon, si j'enlève ci, puis telle autre affaire, et je me rends parfait, là, Dieu peut-être va pouvoir se manifester à moi. Peut-être Dieu va me laisser entrer dans ses parvis. » Mais non, le moment qu'on réalise qu'on a besoin du Sauveur, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner de tous nos péchés. Et là, on peut avoir déjà accès au trône de la grâce. C'est merveilleux, ça. Dans Colossiens 2, verset 15, ça dit, « Christ, il a dépouillé, désarmé. » Dépouillé, ça veut dire désarmé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le Seigneur Jésus a déjà payé le prix à la croix. Il est déjà victorieux pour nous aujourd'hui. Et vous savez, pendant les années 1500, il y a eu la réforme protestante. On a entendu parler de Martin Luther qui a pris son marteau, puis là, il a pris sa thèse concernant le salut par grâce et puis toutes les autres choses qu'il trouvait, qu'il devait protester concernant l'Église catholique. On connaît toute l'histoire de la réforme protestante. Et il y a eu cette réforme. Et pendant longtemps, on a bénéficié de cette connaissance que le salut, c'était par la grâce, par le moyen de la foi. On est tous au courant aujourd'hui qu'on est sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, n'est-ce pas? Bon, bien, on était rendu là pendant longtemps. Mais là, le Seigneur a commencé à faire d'autres choses. Dans les années 1900, on a su qu'il y a eu un courant de l'Esprit qui est venu. Et moi, je crois qu'où on en est rendu aujourd'hui dans le monde de l'Église, c'est qu'on est rendu encore une fois à un point d'une réforme. On est présentement dans l'étape de l'Église de Jésus-Christ où nous allons vivre une réforme ensemble. Et cette réforme, c'est une réforme dans l'esprit, dans le monde de l'esprit. Et vous savez, on a reçu une connaissance que c'était le salut par grâce. Et aussi, on a même connu, on a eu un certain réveil au niveau de la révélation de qui on est en Christ et que le salut, c'était pas juste de passer de l'enfer au ciel, mais c'était également le salut de l'âme au complet, ou de l'être, le corps, l'esprit, l'âme et le corps, à toutes ces dimensions-là, on a compris ça. Surtout ici, on l'enseigne, on est complètement sauvé. Pas juste l'esprit qui est sauvé, mais même le corps, tout. On est complètement sauvé. Mais aussi, on s'en va présentement, qu'est-ce que le Seigneur est en train de préparer plusieurs hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Il est en train de nous préparer à recevoir vraiment une visitation de sa part. Je crois ça de tout mon cœur. On est vraiment à cette place et on entre déjà dans cette réforme dans le monde de l'esprit où Dieu se manifeste d'une façon tangible et il change des vies. Il y a des témoignages que vous allez entendre, des gens qui ont rencontré le Seigneur Jésus, que Jésus est apparu à des gens. Et même de ce temps-ci, vous savez, il y a des musulmans qui se convertissent au christianisme, qui deviennent des enfants de Dieu parce que Jésus est apparu à certains musulmans. Avez-vous entendu parler de ça? Parce que vous savez, pendant longtemps, on a prêché la religion, mais les gens, là, ils cherchent pas d'une religion à une autre religion. Ils ont besoin de quelque chose de tangible. Et ces musulmans-là qui ont vraiment soif de Dieu, qui se tournent vers Dieu, mais Jésus apparaît et dit « Suis-moi ». Et j'ai entendu des témoignages où Jésus est apparu à une femme qui cherchait Dieu et Jésus a dit « Suis-moi ». Il l'a emmenée jusqu'à une église. Et après, il était disparu. Mais la femme, elle savait que le véritable Dieu était dans l'église chrétienne. On vit dans cette époque-là et même les hommes et les femmes de Dieu vivent des temps de rafraîchissement surnaturel et des visitations de l'esprit dans le monde spirituel. Et moi, je crois qu'il faut être prêt à aller à la guerre pour entrer dans les choses que Dieu veut pour son Église aujourd'hui. Il faut aller à la guerre. Mais vous savez, dans Psaume 60, verset 14, ça dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Amen. Donc, premièrement, si on va à la guerre, il faut savoir qui on est. Il faut connaître notre roi. Il faut avoir cette rencontre avec notre chef, Jésus-Christ. Une autre chose qu'on doit faire, qui était claire, ça dit « On doit obéir à ses commandements. » Vous allez dire, oui, mais Joël, est-ce qu'on est encore sous la loi? Je pensais qu'on était sous la grâce. On a eu la révélation qu'on était sous la grâce. Donc, on n'a plus de commandements à écouter. Mais je vais vous donner quelques passages ici, vraiment intéressants. Dans Jean 13, verset 34, c'est dit, dans Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. » Ici, c'était Jésus qui parlait. « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Voyez-vous, quand on comprend que le commandement pour nous, dans le Nouveau Testament, c'est le commandement de l'amour. Dans Romains 13, verset 10, il est écrit, « L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Si vous essayez de tout vivre la loi de l'Ancien Testament, faire les sacrifices, toutes ces choses-là, bien vous allez passer à côté. Parce que vous ne serez jamais capable d'accomplir toute la loi. C'est impossible. Et même la raison pourquoi Dieu a donné la loi, c'était justement pour que les gens, les Juifs, découvrent que c'était impossible pour eux de marcher vraiment selon les préceptes de Dieu. Alors Dieu a mis la loi là qui révélait l'état naturel de l'homme et que l'homme réalise, « Wow, je ne suis pas capable de me sauver moi-même, donc j'ai besoin d'un sauveur. » Et c'est pour ça que Jésus est venu par la suite mourir sur la croix pour nous. Mais vous voyez, par la suite, dans le Nouveau Testament, sous la dispensation de la grâce, ici, ça dit, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, si vous marchez dans l'amour, vous allez accomplir toute la loi. Devant Dieu, Dieu vous voit, vous marchez dans l'amour, vous marchez et vous accomplissez les commandements de Dieu. Hey, c'est beaucoup plus simple dans le Nouveau Testament de marcher dans l'amour, toujours. Si on marche toujours dans l'amour, on accomplit la loi de Dieu. Et dans 1 Jean, chapitre 3, verset 23, il est écrit, « Et c'est ici son commandement que nous croyons, première chose, que nous croyons au nom du Fils, Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. » Donc, encore une fois, on doit premièrement croire pour accomplir le commandement de Dieu. Donc, croire et par la suite, ce qu'on doit faire, c'est aimer les uns les autres. Et vous savez, des fois, on veut vivre le surnaturel, puis il y a des choses qui nous empêchent de rentrer dedans. Et des fois, c'est un manque d'amour. On a parlé manque d'honneur, toutes sortes de choses. Et j'ai lu un livre cet été, quand j'étais sur la plage. Je lisais un livre de Kenneth Hagin. Il partageait comment il y avait une femme qui avait un enfant qui était malade. Et puis, cet enfant faisait des crises. Il y avait toutes sortes de problèmes. Et là, la femme, elle appelle chez le pasteur où Kenneth Hagin restait, il était en voyage comme évangéliste. Et là, il reçoit l'appel comme quoi cette dame-là lui demande, « Peux-tu venir, s'il vous plaît, prier pour mon enfant? » Alors, Kenneth Hagin et son épouse, ils décident d'accepter d'aller prier pour l'enfant. Mais comme il est dans l'auto, le Seigneur, il dit, « Non, tu ne vas pas prier pour sa guérison. » Il est comme, « Seigneur, comment ça, tu ne veux pas que je prie pour sa guérison? » « Non, je ne veux pas que tu pries pour sa guérison. Dis à la femme d'aimer. » OK. Sauf que finalement, il arrive chez la dame, et puis elle s'attend que le frère va prier pour la guérison de son enfant. Puis il dit non, il dit, le Seigneur m'a dit que toi, tu n'aimes pas ta belle-mère. En fait, tu l'haïs. Et là, la femme a dit, c'est vrai. Il dit, Dieu te dit, aime ta belle-mère. Aime, choisis l'amour. Et elle a accepté. Elle a dit, parfait. Le moment qu'elle a accepté d'aimer sa belle-mère, son enfant a été guéri surnaturellement. Et l'enfant, par la suite, l'ennemi est revenu sur l'enfant pour le rendre malade, pour qu'il puisse avoir une crise. Et là, tout de suite, elle a dit, « Non, Satan! » Elle dit, « Je marche dans l'amour. Enlève tes mains. Je marche dans l'amour. » C'était pas « Sois guéri au nom de Jésus. » Non, voyez-vous, quand on marche dans l'amour, on accomplit la loi de Dieu. Mais Dieu dit qu'on ne marche pas dans l'amour, on fait le contraire. Et vous savez, le fait de ne pas marcher dans l'amour, ça nous met en dehors des promesses de Dieu. C'est super grave de ne pas marcher dans l'amour. Puis des fois, on croit Dieu, on confesse la parole, on fait plein d'affaires, mais si on ne marche pas dans l'amour, on est discrédité, on ne peut pas recevoir tous les bienfaits de Dieu. Puis c'est simple, pourtant, on se dit, hein, aimer, hein, c'est tellement simple. C'est simple, puis c'est pas simple aussi. Hein. Quand on s'est fait maltraiter, c'est difficile d'aimer. Alors, comment est-ce qu'on fait? On demande à Dieu, des fois, là, quand c'est difficile, « Seigneur, de ma chair, c'est très difficile d'aimer la personne peut-être, mais Seigneur, remplis-moi de ton amour surnaturel pour la personne et je prends la décision, je décide de justement choisir l'amour. Je décide, moi, je vais marcher dans l'amour. » Amen. C'est une chose. Donc, on veut obéir au commandement de Dieu en marchant dans la foi, en croyant au nom du Fils Jésus-Christ et en aimant les autres. Dans 1 Jean 4, verset 18, il est écrit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » Voyez-vous, vous allez dire « Ouais, mais moi, je veux avoir la foi, mais je suis rempli de crainte. » Choisissez l'amour et vous allez marcher dans la foi. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. C'est quoi ça? 1 Jean 2,5, ça dit « Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. » Par là, nous savons que nous sommes en lui. Quand on marche dans l'amour, un des signes que quelqu'un ne marche pas dans l'amour, c'est quand quelqu'un parle contre quelqu'un d'autre. Hein? Vous avez connu des gens qui parlent un contre l'autre, ou ils ont une grosse dent, ou ils ont vécu quelque chose dans le passé, mais que finalement, ils veulent dénigrer la personne, ils cherchent à attaquer le caractère de la personne. Peut-être vous en connaissez des gens qui ont fait ça. Ça, c'est de ne pas marcher dans l'amour. Mais si on veut marcher dans l'amour, on choisit, le plus qu'on peut, d'oublier. Comme Dieu a pardonné et a oublié nos fautes, nous, c'est certain qu'on ne peut pas oublier. Mais on peut choisir d'avoir l'attitude d'oublier. C'est impossible. Quelqu'un vous a vraiment fait mal. C'est impossible pour vous d'enlever ça de votre cerveau. Vous l'avez vécu. Cependant, vous pouvez avoir l'attitude dans votre cœur qu'à chaque fois que vous allez revoir la personne, vous n'allez pas ramener ça sur le tapis, hein, et dire « Hey, tu m'as fait ça ». Non, ça, ce n'est pas de faire, c'est pas un vrai pardon, ça. Mais c'est de choisir, de marcher dans l'amour. Puis quand on a la révélation de l'amour de Dieu, c'est merveilleux. Ça ouvre les portes au surnaturel. Une autre chose qu'on doit faire, quand dans cette déclaration de guerre, on décide en nous-mêmes « Oui, je marche dans l'amour », la prochaine chose, on doit saisir notre héritage, saisir qu'est-ce qui nous appartient. Vous savez, il y a des gens qui vont saisir les barreaux, sont pris dans toutes sortes de problèmes. Ils vont saisir les barreaux de leur vie et puis vont parler constamment des barreaux. Les barreaux sont durs, les barreaux sont pas malléables, je suis pris là-dedans. Et puis ils vont confesser, ils vont parler constamment de leur vie derrière les barreaux. Ils vont parler même, des fois, quand ils vont prier, admettons, s'ils sont malades, ils vont dire « Seigneur, voici ma diagnostic » et puis ils vont parler la diagnostic à Dieu. Mais Dieu ne nous a jamais dit « Donne-moi un rapport médical ». Savez-vous ça? Dieu ne nous parle pas de ça. Ou même un rapport financier. « Seigneur, j'ai ci, j'ai ça. » Puis « Seigneur, savez-vous qu'est-ce qui plaît à Dieu? » C'est quand on dit « Seigneur, je réalise, j'ai des besoins, mais je ne veux pas magnifier. » Mes besoins, je veux te magnifier et déclarer que c'est toi ma source. C'est toi ma source de guérison, c'est toi ma source de provision. Tout ce que j'ai de besoin, Seigneur, c'est toi. Alors, peu importe ce qui se passe dans le naturel, Seigneur, je choisis de te louer pour qu'est-ce que tu vas me délivrer. Parce que c'est toi, celui qui me délivre, qui me sort derrière ces barreaux-là. Amen. C'est une question d'attitude, parce que savez-vous, moi, là, pendant un temps, je priais. Puis quand je priais, après ma prière, je sortais déprimé. Puis je dis à ma femme, j'ai dit, c'est bizarre, je viens de prier pendant une heure, puis je sors démoli. Super comme découragé. Mais savez-vous pourquoi? Pendant une heure, j'ai pensé à tout ce qui allait mal. Puis je priais, Seigneur, il y a ça qui va mal, il y a ça qui va mal. Ça aussi, ça va mal. Puis Seigneur, voici comment ça va mal. Et là, dans cette dimension-là, et en plus, ça aussi, ça va pas trop bien. Alors, pendant une heure, je méditais sur comment tout allait mal, et je sortais de mon temps de prière, sachant que ça allait mal. Mais quand j'ai eu la révélation que, Si je le sais, ça va mal, maintenant je vais prendre les promesses de Dieu concernant les choses qui vont mal et je vais méditer sur la provision de Dieu. Et là, je sortais, ah, oh, wow! Là, je suis encouragé parce que je sais, Seigneur, que c'est toi qui est la réponse à tous mes besoins. Ça ne dérange pas le problème, Dieu est toujours la réponse. Là, on sort encouragé. Là, notre foi est relâchée pour recevoir de sa main. Amen. Donc, on doit saisir notre héritage. Dans Jean 8, 36, ça dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Donc, quand on est affranchi, on n'est pas à moitié libre. On n'a pas un pied dans le passé. Non, quand on est vraiment affranchi, quand Seigneur Jésus vient nous affranchir, il veut qu'on tourne la page. Et c'est certain que des fois, on doit parler à quelqu'un et partager les choses qu'on a vécues afin que la personne prie pour nous, pour que Dieu vienne apporter une guérison dans notre âme. Certainement, je crois là-dedans. Mais il y a des gens qui vivent constamment dans le passé et qui refusent de tourner la page. Et puis, eux reçoivent la pitié des gens à cause de leur vie du passé. Et puis, ils veulent finalement rester dans le passé. Ils veulent pas être affranchis. Mais dans la Bible, ça dit « Celui qui est affranchi est réellement libre, celui dont le Fils affranchit. » Amen. Amen. Et une des choses, on a tout un héritage en tant qu'enfant de Dieu. Et vous savez, dans Deutéronome 28, verset 2, ça dit « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Vous pourrez lire tout l'héritage du croyant dans Deutéronome 28. Certains d'entre vous, vous le connaissez peut-être par cœur. Mais il y a tout un héritage. Ça dit, « Lorsque vous obéirez à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on dit « obéir », ça veut dire « marcher dans l'amour ». Obéir au commandement, marcher dans l'amour. Voici votre héritage. Dans Galates 3, 29, ça dit, si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde tout ce qui appartenait à Abraham et Dieu dit que ça nous appartient à cause nous sommes des descendants spirituels d'Abraham. Mais il y en a qui vont dire, oui, mais Joël, ça c'était dans l'Ancien Testament. Comment est-ce qu'on peut croire aujourd'hui qu'on peut bénéficier des bienfaits qu'Abraham avait? Bien, premièrement, je viens de vous le lire dans Galates 3, 29, mais si vous avez besoin d'une autre chose pour le prouver, dans Hébreux 7, verset 22, ça dit « Ainsi, Jésus est devenu le garant d'une alliance meilleure. » Alors, si vous avez de la misère à croire que tous les bienfaits d'Abraham sont réellement pour vous, on a un autre verset ici qui nous dit qu'on a encore une meilleure alliance à cause du Seigneur Jésus. Donc, ça ne sera pas moins, ça sera encore mieux que qu'est-ce qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Amen. Ça, c'est bon. Donc, on va voir, c'est quoi l'héritage d'Abraham? Dans Galates 3, verset 13 à 14, il est écrit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. » Donc, la malédiction, on voit ça dans Deutéronome 28. Vous pourrez lire toute la malédiction. Et là, la première partie, c'est la bénédiction. Deuxième partie, c'est comment vous faites maudit si vous voulez vivre maudit. Combien ici veulent être maudits de Dieu? Non. Ceux qui veulent être bénis, c'est bien mieux. Mais vous avez les deux. Dieu est très gentil, vous donne les deux choix. Comment être béni, comment être maudit. Moi, je choisis la bénédiction, je trouve que c'est plus le fun. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, Jésus a été maudit pour nous, à notre place, afin qu'on puisse être béni. Donc, moi, je crois que ça déplaît à Dieu quand on n'est pas béni. Savez-vous ça? Dieu veut qu'on soit béni. C'est pas arrogant, c'est pas d'être déséquilibré, c'est pas de prêcher un évangile bonbon, d'être béni. Il y a des gens qui vont se moquer de ça puis dire ça c'est l'évangile bonbon. C'est pas vrai. Moi je crois que quand on ne marche pas dans la bénédiction, on déplaît à Dieu. Quand on marche béni à tous les niveaux dans notre vie, le Seigneur se réjouit parce que son Fils a payé un grand prix pour qu'on puisse en bénéficier. Si moi, je m'en vais à la baie, à Montréal, admettons, et je dépense 300$ pour vous donner un beau cadeau, un beau manteau, une belle chemise, je vous la donne à votre fête, et puis vous dites, c'est trop beau pour moi, je ne veux pas l'avoir, moi, ça va m'insulter. N'est-ce pas? C'est insultant quand on paye un grand prix. Mais Dieu, lui, a payé un grand prix, il a donné son Fils Jésus pour qu'on puisse être béni. Premièrement, la bénédiction de l'âme, de l'esprit, tout ça, c'est de passer de la mort à la vie. Dieu veut qu'on s'en aille au ciel. Il veut pas que personne périsse. Il veut que tous se repentent et que s'en aille au ciel avec lui, n'est-ce pas? Ça, c'est le cœur de Dieu. Mais vous savez, c'est pas juste cette dimension-là. Il y a une autre dimension également que le Seigneur veut qu'on puisse bénéficier. Je vais finir le texte. « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussent par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Donc, par la foi, on reçoit ces choses-là. Et l'Esprit également qui a été promis. Cette relation avec l'Esprit de Dieu, tout ça, ça nous appartient. L'héritage du salut en Jésus, ça nous appartient parce que nous sommes bénis comme Abraham était béni. Bien, nous voyons que certainement la santé fait partie de la bénédiction de Dieu. Dieu veut qu'on soit en santé. Dieu veut qu'on prospère à tous les niveaux dans notre vie, comme prospère l'état de notre âme. C'est le cœur de Dieu. La guérison divine n'est pas une doctrine, c'est le cœur de Dieu. Dieu veut qu'on soit guéri. Amen. Moi, j'y crois. Dieu veut qu'on soit guéri. Si Dieu ne voulait pas qu'on soit guéri, s'il voulait qu'on soit malade, Jésus n'aurait pas payé le prix pour qu'on soit guéri. Il l'aurait fait pour rien. Mais Jésus a payé un grand prix pour nous, pour qu'on puisse marcher dans la santé divine. Et moi, j'y crois, c'est ça que je veux vivre. Est-ce que vous voulez vivre malade? Donc, merci Jean, gloire à Dieu. Il y en a-tu d'autres qui ne veulent pas vivre malade? Dieu veut qu'on puisse bénéficier de notre salut au complet. Et voici dans Actes 10, 38. Ça dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien. » Faisait du bien, Jésus. « Et guérissait et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire de Dieu. » Non, qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. C'est ça que Jésus faisait. Quand Jésus se promenait sur la terre, il prêchait, il enseignait, il guérissait. Ça, c'est le ministère de Jésus-Christ. Il enseignait, il prêchait, il guérissait. Et la Bible dit qu'il faisait du bien. Et on sait dans la parole de Dieu que tout ce que Jésus faisait était en accord avec la volonté de Dieu. Donc Jésus a jamais contredit la volonté de son Père. Il était toujours en harmonie avec la volonté de son Père. Et savez-vous, Jésus nous a même enseigné de prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous savons qu'au ciel, il n'y en a pas de maladie. Donc Dieu veut qu'on prie que la volonté de Dieu au ciel, la gloire des cieux, soit aujourd'hui dans nos vies. Amen. Moi, c'est ça que je crois et c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Dans 1 Jean 3, 8, ça dit, « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » C'était sa mission, de détruire les œuvres du diable. Alors, si on vit encore prisonnier à cause des œuvres du diable, Jésus aujourd'hui veut nous libérer et ne veut pas qu'on soit captif. Amen. Et ici, on voit justement comment une descendante d'Abraham a été guérie. Je vous invite à tourner là dans Luc chapitre 13, versets 11 à 16. Luc chapitre 13, versets 11 à 16. Il est écrit, « Une femme malade se trouvait là depuis 18 ans. Un esprit mauvais la tenait courbée et elle était totalement incapable de se redresser. » Voyez, là, même dans le physique, l'ennemi de cette femme-là voulait la garder courbée. Vous savez, quand vous marchez la tête courbée comme ça, qu'est-ce qui se passe? Vous regardez dans le négatif, vous regardez vers le sol, vous n'êtes pas en train de regarder vers les cieux d'où vient notre secours, n'est-ce pas? Mais là, même physiquement, on voit l'œuvre de Satan. Ici, il gardait la femme courbée. Verset 12, « Quand Jésus vit cette femme, il l'appela et lui dit, « Tu es délivré de ta maladie. » Donc, si vous êtes malade aujourd'hui, Jésus vous dit, « Tu es délivré de ta maladie. » Verset 13, « Il posa les mains sur elle, et aussitôt, elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le chef de la synagogue était indigné de ce que Jésus avait accompli une guérison le jour du salut. Il s'adressa alors à la foule. Il dit, « Il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non le jour du sabbat. » Voyez, le diable et l'esprit de religion ne veut pas voir la guérison en opération. Ça, c'est clair. Verset 15, « Le Seigneur lui répondit en ces mots, « Ah, c'est bien vrai, je vais me tasser, je vais arrêter. » Non, verset 15, « Le Seigneur lui répondit en ces mots, « Hypocrite que vous êtes, le jour du sabbat, chacun de vous détache de la crèche son bœuf et son âne pour le mener boire, n'est-ce pas? Et cette femme, descendante d'Abraham, que Satan a tenu liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas la détacher de ses liens le jour du sabbat? » Donc, ici, cette descendante d'Abraham, qui est en train de déclarer quelque chose de légal ici, c'est une descendante d'Abraham, elle n'a pas le droit, son droit légal, là, c'est d'être libre de la maladie. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est une descendante d'Abraham. Est-ce que vous êtes des descendants spirituels d'Abraham aujourd'hui? Si c'est oui, Jésus a dit, tu es délivré de ta maladie. On n'a plus besoin d'attendre 2 jours, 3 jours, 4 jours. Tu es délivré de ta maladie. Si vous êtes malade aujourd'hui, savez-vous, vous n'avez pas besoin d'attendre le mois de guérison pour être guéri. Moi, je crois que l'Esprit de Dieu accompagne sa parole. Juste la parole, tu es délivré de ta maladie, c'est suffisant pour être guéri. Amen. Donc, Dieu veut vous rencontrer dans vos corps physiques. Jésus, évidemment, aimait ça, la guérison, parce que c'est ça qu'on voit dans la parole. Et nulle part, ce qu'on voit Jésus qui rendait les gens malades. On ne retrouve aucune histoire dans la parole de Dieu où Jésus s'en allait et dit, je m'excuse, je dois m'en aller en mission pour rendre cette personne-là malade, je dois lui enseigner mes voies parfaitement. Il n'y a aucune place dans la Bible où on trouve Jésus qui faisait ce genre de ministère-là, mais pourtant, souvent dans nos églises, on croirait que c'est ça son ministère, c'est de nous rendre malades. Mais la parole de Dieu nous dit ce qui vient nous voler, nous égorger, nous détruire, c'est Satan. Et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Une autre chose que le Seigneur veut faire, savez-vous? Bon, on a parlé de la santé. C'est un petit peu en retard. Les finances. Ah, mais ce n'est pas spirituel. On ne parlera pas de finances à l'Église parce que ce n'est pas spirituel. Combien d'entre vous, vous travaillez et la majorité de votre vie, vous la passez à travailler pour avoir de l'argent? Ça serait comme si Dieu n'aurait jamais parlé de la chose qui vous préoccupe le plus dans votre vie. Ça serait tout un Dieu, ça? Qui se préoccuperait juste de votre âme et qui ne s'occuperait pas de cette dimension-là de votre vie qui vous préoccupe beaucoup. Mais savez-vous, Dieu aussi veut que vous soyez libre financièrement. C'est le cœur de Dieu que ses enfants ne soient pas liés financièrement. Puis en passant, c'est le diable qui veut que l'Église soit liée. Quand on est lié financièrement et qu'on ne peut pas payer des choses, on ne peut pas payer de l'équipement, par exemple, on ne peut pas prêcher aux gens. Si on n'avait pas eu d'argent, on n'aurait pas pu acheter de caméra, on n'aurait pas pu acheter de système de son. On ne pourrait pas être ici aujourd'hui si on n'avait pas d'argent. Mais savez-vous, quand on peut faire les œuvres de Dieu. Alors Dieu veut que son Église possède de l'argent pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Puis c'est ceux qui ont un esprit religieux, qui ont été séduits pour croire que c'est bien d'être pauvre. Et on va citer, ouais, mais Jésus n'était pas riche. Jésus, là, avait besoin d'un trésorier. Vous connaissez Judas? Vous avez entendu parler de Judas? C'était le trésorier de Jésus. Je vais vous dire, moi, je n'ai même pas besoin d'un trésorier autre que moi-même en ce moment pour mes finances personnelles. Je n'ai pas engagé quelqu'un d'autre pour gérer tous mes millions. Je ne suis pas rendu là. Mais tout ça pour vous dire que quand on a un trésorier, c'est parce qu'on n'arrache pas, là. On a besoin de quelqu'un pour nous aider à tout gérer ça et le ministère qu'il avait. Mais je ne suis pas en train de vous dire que Jésus nécessairement prenait l'argent pour s'acheter une grosse maison puis conduire les meilleurs ânes à l'époque. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le ministère avec l'argent. Il faisait, qu'est-ce qu'il recevait comme provision? C'était pour accomplir la volonté de Dieu. Vous savez, moi, on pourrait prendre toutes les offrandes et dire, sais-tu, je vais acheter, je ne sais pas, de quoi inutile, OK? Je ne sais pas qu'est-ce serait inutile en ce moment, mais de quoi inutile pour le ministère? Ça serait inutile, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'argent que Dieu nous donne? Qu'est-ce qu'on fait? On veut le faire fructifier pour voir l'œuvre de Dieu avancer. Alors, mais l'ennemi, il veut garder le peuple québécois dans un esclavage, comme quoi Dieu veut qu'on soit pauvre. Puis si on est pauvre, on va lui faire plaisir. Mais ça, c'est vraiment un mensonge de Satan. Et l'opposé, savez-vous, une autre chose que Satan fait? Satan, non seulement il va mentir à ce niveau-là, mais il va susciter des faux prophètes qui vont juste prêcher sur les finances et qui vont avoir un cœur à l'argent au lieu d'un cœur pour Dieu. Puis ça fait autant de dommages. Puis ça, c'est ça qui me dérange beaucoup. Quand des gens prêchent l'argent pour leur vente, vous savez, on peut être déséquilibré d'un côté ou de l'autre. Dieu nous demande de marcher dans la vérité. Dieu veut bénir son peuple pour subvenir aux besoins de l'Église, pour que l'Église puisse grandir et qu'on puisse voir des choses se produire. Mais il ne faut pas être déséquilibré. Mais voyez-vous, une des choses qu'on doit comprendre, dans Genèse 13, verset 2, ça dit « Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or ». Donc, on sait que cet homme, Abraham, n'était pas un mendiant, mais il avait tout ce qu'il avait de besoin. Il y en avait suffisamment pour tous ses besoins personnels. Alors, si Dieu a dit, qu'on a lu tantôt, que la bénédiction d'Abraham, c'est pour nous, ça veut dire qu'on aurait le droit aussi d'être à l'aise pour être capable de semer dans l'œuvre de Dieu. Mais l'autre affaire, c'est que quand on a peur, admettons, vois la prochaine chose. Une crainte. J'ai peur de donner à Dieu parce que j'ai peur qu'il va m'en manquer. J'ai peur que, par exemple, si je fais quelque chose, un geste d'une semence, il va m'en rester moins. Ça aussi, c'est un autre mensonge de l'ennemi. Parce que le plus qu'on donne à Dieu, Dieu il dit qu'il va nous multiplier en retour dans 2 Corinthiens chapitre 9. Donc ça, c'est un mensonge. Moi, j'ai découvert, quand on marche dans la fidélité et on fait une semence envers Dieu et on croit dans notre cœur qu'on le fait pour l'honorer, le Seigneur est toujours fidèle pour nous bénir en retour. Et là, quand on est béni en retour, on peut donner davantage. Je peux vous dire, il y a des gens, moi j'ai enseigné sur les finances voilà, plusieurs mois, ça fait peut-être 11 mois de la dernière fois que j'ai enseigné sur les finances. Et les gens qui ont entendu ce message-là, je ne vous dirai pas de nom à rien, mais j'ai eu des témoignages des gens qui ont vu un changement dans leurs finances comme ils n'ont jamais vu auparavant. Des gens qui ont commencé à obéir, puis il y en a d'autres, ça faisait longtemps qu'ils obéissaient, mais qui ont découvert d'autres clés, qui ont commencé à les déposer dans leur cœur, les confesser, et ils ont vu des choses changer dans le naturel. Mais ça, il faut marcher par la foi pour le voir. Si on n'est pas prêt à rien faire, on ne verra pas. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si on ne croit pas, on est incrédule, on ne fait rien, on passe à côté et on marche comme du monde normal. Mais Dieu nous appelle à vivre d'autres choses. Mais même dans les finances, la psaume 112, versets 2 à 3, ça dit « La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. » Et dans Philippiens 4, 19, ça dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Puis j'ai regardé également dans la Bible du Sommeur, ça dit « Mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins, il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. » Mais ça, c'est une belle promesse, n'est-ce pas? Dieu a promis de nous donner selon sa gloire, sa richesse glorieuse. Donc, la richesse du ciel, Dieu veut entreprendre pour vos besoins. Dieu veut vraiment faire ça. Puis savez-vous, l'ennemi de vos âmes ne veut pas que vous croyiez ça. L'ennemi ne veut pas que vous croyiez ces versets-là comme ils sont écrits. Parce que si vous pouvez demeurer dans l'incrédulité, vous allez continuer à être dévoré par lui, par Satan. Vous allez être dévoré dans votre portefeuille. Et je peux vous dire que Dieu ne veut pas que vous soyez dévoré à aucun niveau. Dieu veut que vous soyez bénis à tous les niveaux. Ce n'est pas juste spirituel l'affaire. L'enfant de Dieu, là, Dieu se préoccupe de toutes les dimensions. Puis je ne sais pas pourquoi c'est difficile des fois pour les gens de croire que Dieu veut qu'on soit bénis à tous les niveaux. Puis il y en a pour eux, c'est une montagne gigantesque. Dieu veut juste que je rentre au ciel. Puis une fois que je suis sauvé, ça vient de s'éteindre. Dieu ne veut plus rien faire d'autre pour moi. Non, Dieu là, il vous voit comme son enfant et il dit, mon enfant, moi, je vais en prendre soin. Je veux m'occuper de lui, je veux le bénir, je veux lui faire des faveurs, je veux prendre soin de lui. Je veux que tout le monde voit que c'est mon chouchou, parce que je l'aime. Mais je peux vous dire, moi, j'en suis témoin, mais j'ai simplement cru la parole, puis j'ai mis ma vie en règle selon la parole. C'est simple, obéissez, on a juste à obéir. Si on obéit Dieu, Dieu, il promet, puis il dit, mettez-moi à l'épreuve à ce niveau-là. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, dans Malachie 3, 10. Et une autre chose, Marc 10, 29, 30. Si, admettons, vous devez quitter, admettons, votre province, votre pays, pour répondre à l'appel de Dieu. Savez-vous, vous avez une promesse que vous pouvez prendre. Dieu, Jésus, a donné une promesse pour ceux qui étaient pour répondre à l'appel et quitter leur père, leur mère. Voici qu'est-ce que Jésus a dit. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, dans Marc 10, 29 à 30, « Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple ou pleinement, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, au pluriel, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » On va regarder ce texte-là ici, bien important. Ça dit, comme nous, je vais vous donner ma vie en illustration, OK? Pas pour nous élever, juste pour vous donner le contexte. On a quitté, à l'âge adulte, j'ai quitté mon père et ma mère, on a accepté de s'en aller en Alberta pendant 4 ans pour s'investir dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui ont pris ce texte-là pour me dire « Dieu m'appelle à abandonner ma famille, mes petits-enfants. » Non, ça ne parle pas d'un père ou d'une mère qui abandonne ses enfants. Okay? Je veux juste dire ça clairement. Ce texte s'adresse aux adultes. quand vous quittez vos parents, moi j'ai quitté mes parents, j'étais à l'âge d'adulte, j'ai quitté ma famille, j'ai accepté de tout relâcher pour m'en aller dans l'œuvre de Dieu là-bas. Mais là, Dieu, il me donne une promesse, il dit, il n'y a personne qui va avoir tout fait ça à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, qui ne reçoit vos sanctuaires présentement dans ce siècle-ci des maisons. Premièrement, je peux vous dire, on s'est acheté une première maison, Dieu nous a bénis, on l'a acheté au temps où le marché était bas, on l'a vendu, le marché était haut, on a pratiquement doublé le montant de notre revenu, doublé le montant de la maison qu'on avait acheté il y a 3 ans. On a vu la main de Dieu là-dedans, on a acheté une autre maison. Okay? Donc, il y en a aussi, je vais vous dire parmi nous, qui ont acheté plus qu'une maison depuis que l'église est ouverte ici, qui ont plus qu'une propriété parce qu'ils ont pris ce verset-là. Ça dit... reçoit présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères et des sœurs, des mères et des enfants. Moi, je peux vous dire, on a de la famille en Alberta à cette heure. Il y a des gens qui ont dit, à cette heure, nous autres, nos liens, là, c'est pour la vie. C'est vrai, on a encore des gens comme ça. Des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des tailles. Avec des persécutions. Savez-vous pourquoi c'est écrit « avec des persécutions » Parce que quand Dieu vous bénit, vous donne des terres et vous donne des maisons, il y a des gens qui vont vous persécuter parce qu'ils vont être jaloux de vous. Attendez-vous à ça. Si vous croyez que je vous dis que Dieu va vous bénir et que vous vous attendez à la bénédiction, si vous n'attendez pas, vous n'allez pas le vivre. Mais si vous commencez à croire, Seigneur, je sais que tu veux me bénir pour que je sois une source de bénédiction pour l'œuvre de Dieu. C'est ça l'objectif, là. Dieu vous bénit pour être une source pour le ministère. Si vous êtes une source pour vous-même, je vais vous dire que ça va arrêter vite, très rapidement. Dieu va voir que vous n'êtes pas un canal de bénédiction, que vous êtes un réservoir égoïste. Puis Dieu, drette là, la bénédiction vient de s'éteindre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, Dieu les a bénis une fois, puis ils ont dit, « Dieu m'a béni! » On s'en va en Californie, on s'en va à Cuba, on s'en va au Club Med. Ils vont le dépenser au lieu de bénir l'œuvre de Dieu avec. Puis là, il dit, « Ah, j'ai été béni une fois. Je ne sais pas pourquoi Dieu ne me bénit plus. » Mais c'est simple parce que vous n'avez pas les priorités de Dieu. Mais regardez, ici, là, ça dit, vous allez avoir des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ça nous parle, là. Ça se peut qu'il va y avoir des gens jaloux de vous. Puis aussi, l'autre affaire, on n'en parle pas à droite et à gauche comme à Dieu nous bénit nécessairement parce que c'est pas tout le monde qui va comprendre. Mais quand Dieu vous bénit, comme vous êtes béni étant un descendant d'Abraham, ça, l'objectif, là, c'est de pourvoir et voir l'œuvre de Dieu avancer. Puis quand vous avez ce cœur-là, vraiment, Seigneur, si tu me bénis, puis moi, si je marche dans l'obéissance, premièrement, comme tu me dis, je te remets mes dîmes, mes offrandes, je fais des aumônes, je marche dans l'amour. Seigneur, je crois également aujourd'hui de recevoir ta bénédiction financière dans ma vie. Et par la suite, Seigneur, je m'engage devant toi que je vais semer dans l'œuvre de Dieu. Et là, dans 2 Corinthiens chapitre 9, Dieu dit, mon enfant, moi, je veux te bénir. Oui, je vais me servir de toi. Et là, vous allez commencer à voir la provision de Dieu. Nous autres, on vit des miracles depuis avant l'ouverture de l'Église. Vous le savez, je l'ai raconté, mais comment ça qu'on n'arrache pas comme la majorité des pasteurs au Québec? C'est-tu parce qu'on est meilleur que les autres? Non, on n'est pas meilleur que les autres. On a cru la Bible, puis ça ne m'a pas gêné de vous le dire. Les dîmes, les offrandes, ça ne me gêne pas de vous en parler. Si ça me gêne, je suis en train de vous voler. Je suis en train de vous empêcher de recevoir la façon que Dieu va vous bénir. Puis il y a du monde qui veut juste prêcher pour flatter le monde, le sens du poil. Mais savez-vous, moi là, vous n'êtes pas mon boss. Dieu est mon boss. Ma responsabilité, c'est de plaire à Dieu. Vous dire le conseil de Dieu, puis c'est à vous autres. Si vous ne le faites pas, c'est entre vous et Dieu. Mais moi, je vous donne le conseil de Dieu. Si vous mettez votre vie en règle, savez-vous, Dieu va vous bénir. C'est garanti. Puis c'est pas normal d'en arracher toute notre vie. Il y a des temps, des saisons où on peut passer par des vallées, puis Dieu peut travailler notre cœur, certainement. Mais si toute votre vie, c'est de n'arracher, aujourd'hui, je crois, là, vous devez avoir un cri de guerre qui sort et vous allez dire, c'est une déclaration de guerre contre l'ennemi, je suis un descendant d'Abraham. Donc, j'ai le droit d'être en santé, j'ai le droit d'avoir toute la provision, tout ce que j'ai besoin, ça m'appartient, je suis un enfant de Dieu. C'est ça le cri qui doit sortir de votre cœur. Amen. Donc, les finances. Ça, c'est une chose. C'était gratuit, ça, en passant. Puis, je vais juste vous dire aussi, c'est pas un autre évangile. Il y a des gens qui vont dire, oh, ça, c'est l'évangile de la prospérité. Si je prêchais ça chaque dimanche matin, ça serait, oui, un autre évangile. Combien de personnes ici m'ont pas entendu ça prêcher chaque dimanche de votre vie? J'ai prêché ça, je pense, l'Église était peut-être 2-3 mois. Puis après ça, j'en parle plus tout le temps parce que j'ai pas besoin de prêcher la même affaire. Vous comprenez une chose, hein, une fois qu'on l'a prêché. Si je prêchais chaque dimanche de votre vie, ça serait la même affaire. Vous pourriez dire, il y a vraiment des motifs, un problème avec ces motifs. Mais mon motif réel, c'est de vous donner le conseil de Dieu. Comme ça, vous êtes au courant de tout ce que Dieu veut. OK? Donc, la santé, c'est la volonté de Dieu. Les finances également, ça fait partie comment Dieu veut prendre soin de nous. Et la famille, une autre chose. Savez-vous que Dieu veut sauver votre famille? Il y a des gens qui pensent, bien moi j'ai été sauvé, ça vient de cette haine-là, je ne sais pas, peut-être Dieu n'a pas choisi que mes enfants soient sauvés, peut-être Dieu n'a pas choisi que mes parents soient sauvés. J'ai été élu, moi. Eux autres sont peut-être tous prédestinés à souffrir en enfer. Savez-vous, il y a des chrétiens qui pensent ça. Il y a des livres. Je me suis fait donner des livres, moi, là-dessus. Comment Dieu choisit telle personne pour aller en enfer et d'autres pour aller au ciel. Vous remarquez, à chaque fois que la Bible parle de la prédestination, ça parle toujours en lui. En Christ, nous sommes prédestinés à la gloire. Le critère, c'est d'être en Christ. Quand vous êtes en Jésus-Christ, dans votre position en Jésus, prédestiné à vivre toute la gloire du ciel, il n'y a pas d'argument là-dedans. Dieu veut sauver tout le monde. 2 Pierre 3:9, ça dit « Le Seigneur ne veut pas qu'aucun périsse. » Aucun veut dire aucun. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, si vous avez un père, une mère qui ne connaissent pas Jésus, mettez-vous en accord avec ce verset-là et dites « Seigneur, tu veux que tout le monde soit sauvé. » Alors, Seigneur, envoie ton esprit sur mon père, envoie ton esprit sur ma mère, viens les convaincre de péché de justice, viens les sauver, Seigneur Jésus, priez jusqu'à temps qu'ils se convertissent. Laissez pas le diable vous voler vos familles. Si vous avez une mère qui va tout croche, qui se détourne de Dieu, devenez un soldat dans l'armée de Dieu et dites, Seigneur, je prie pour ma mère, viens l'harceler, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Si c'est un père, une sœur, peu importe, un cousin, vous savez, même Dieu va vous donner un esprit d'intercession. Moi, je me souviens, j'étais à l'école biblique, j'étais en train de prier. Puis quand j'étais là-bas, là, l'esprit d'intercession est venu sur moi. Puis je me suis mis à prier pour de la famille qui n'était pas sauvée. C'est surnaturel, des gémissements, des soupirs inexprimables que Dieu nous donne pour prier et d'enfanter spirituellement le salut des âmes. Dans Actes 10, 34, Dieu ne fait pas d'exception de personne. Dieu veut sauver tout le monde. Josué 24, 15, il a déclaré, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Vous avez des enfants qui ne sont pas sauvés? « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ézéchiel 22, 30, « Je cherche, Dieu parlait, je cherche parmi eux un peuple, parmi le peuple, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne la détruise pas, mais je n'en trouve point. » Dieu se cherchait quelqu'un pour intercéder. Et aujourd'hui, peut-être Dieu cherche quelqu'un dans votre famille pour prier pour le salut des gens que vous connaissez, les gens que vous aimez. Et savez-vous, si chaque personne ici priait pour quelqu'un de proche, savez-vous, là, des fois on dit l'évangélisation personnelle, la meilleure façon d'évangéliser, de partager notre foi, c'est un à un, n'est-ce pas? C'est un à un. Mais savez-vous, votre mère, votre père, votre frère, votre soeur, c'est la personne habituellement les plus proches de vous, n'est-ce pas? Si vous priez là, pour eux et Dieu ouvre une porte et là, la personne ouvre leur cœur, mais cette personne-là, elle peut être sauvée cette semaine. On pourrait voir cette église remplie avec toute votre famille. Hein? Ça serait-tu le fun? Toute votre famille sauvée. Il faut avoir la sagesse de Dieu. Il y a des gens qui évangélisent, ils disent à leur famille, « Si tu n'acceptes pas Jésus, tu t'en vas brûler en enfer. » Je vais vous dire, ce n'est pas le meilleur message. La majorité des chrétiens qui sont sauvés, puis ils disent ça, « Hey, j'ai été sauvé, puis vous allez tout en enfer. Vous allez brûler, là. Convertissez-vous. » Là, les gens, c'est comme, « Wow, c'est comme, il est tombé sa tête. » Mais si vous faites de quoi comme, « Hey, j'ai découvert quelque chose de merveilleux. » Vous partagez votre foi, comment vous avez la joie, tout ça. Et ça fait plusieurs années d'entre vous, certains d'entre vous, que vous avez accepté le Seigneur. Ils ont déjà votre témoignage, comment vous êtes heureux. Là, priez que Dieu ouvre une porte. Partagez votre foi et voyez des gens sauvés. Venir au Seigneur. Amen. Amen. Une autre chose qu'on doit faire dans cette grâce spirituelle. Ah, ça c'est un point que j'avais. Si vous êtes seul dans la foi, aussi une autre chose. Si vous êtes seul dans votre foi, votre femme ou votre mari ne marche pas avec Dieu, sachez que Dieu veut sauver cette personne-là aussi. C'est pas la volonté de Dieu qu'un homme et une femme s'en aillent dans deux églises différentes. Je peux vous dire ça. C'est pas normal, puis c'est pas la volonté de Dieu. Alors, quand vous savez que c'est pas la volonté de Dieu, et c'est pas la volonté de Dieu que votre femme reste chez vous pendant que vous êtes à l'église, c'est pas la volonté de Dieu que votre mari reste chez vous. Donc, vous savez que c'est pas la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut imposer la volonté de Dieu sur quelqu'un? Non. On a toujours un libre arbitre. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est prier que Dieu touche le cœur. Et vous priez, et Dieu continue toujours, toujours, toujours à travailler. On ne peut pas forcer personne, mais on peut prier. Il n'y a personne qui peut nous empêcher de prier, n'est-ce pas? On prie et Dieu touche les cœurs. Amen. Une autre chose, dans cette guerre spirituelle dans laquelle le Seigneur nous appelle à être engagés, nous devons recevoir les stratégies célestes secrètes. Recevoir les stratégies de Dieu pour peu importe la bataille dans laquelle nous sommes impliqués dedans. Vous savez, Joseph, Daniel avaient eu des rêves dans la parole. On voit également Jean, Ézéchiel, des visions. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 7, ça dit, en parlant de Jésus, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Savez-vous, vous êtes assis spirituellement, là, vous êtes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Pourquoi? Verset 7, « Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Il y a un objectif. Dieu là, vous donne accès au trône de la grâce. Dieu vous donne accès aux révélations célestes. Pourquoi? Pour vous montrer dans les siècles à venir, les siècles dans lesquels on vit aujourd'hui, l'infinie richesse de sa grâce, de sa puissance, par sa bonté. Le Seigneur, moi je crois, dans cette réforme de l'Église de Jésus-Christ, ce que Dieu veut faire, c'est qu'on passe d'une révélation de la grâce à une révélation maintenant de la présence et la manifestation de Dieu. C'est là où ce qu'on est rendu aujourd'hui. Dieu veut qu'on puisse avoir cette dimension surnaturelle, spirituelle. Et vous savez, on peut entendre des témoignages glorieux, mais ce n'est pas juste pour les autres, c'est pour nous aussi. Le Dieu de la Bible est toujours vivant et il n'a pas pris de retraite. Puis qu'est-ce qu'il faisait dans le passé? Il le fait encore aujourd'hui. Dieu nous appelle à être une armée de lumière. Vous savez, l'apôtre Paul a eu des visions et des révélations du Seigneur. Il a été ravi au troisième ciel. Est-ce que ce serait possible peut-être que Dieu vous choisisse pour vous emmener, vous ravir au troisième ciel, pour vous donner des révélations, pour peut-être vous montrer comment intercéder? Est-ce que ça se pourrait? Mais si l'apôtre Paul l'a eu, pourquoi pas vous? On voit aussi la gloire du passé. Dans Exode 34, verset 35, Dieu nous appelle à donner cette armée de la lumière. Puis, vous savez, quand on parle de l'armée de la lumière, là, on parle de l'armée de la gloire de Dieu. La réforme, c'est de ça qu'on parle. La réforme qui s'en vient. Cette armée dans la gloire de Dieu. Puis si on regarde ensemble dans Exode 34, verset 35, ça parle que les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse. Quand Moïse descendait, après avoir été sur le mont Sinaï pendant 40 jours, 40 nuits, il descendait. Et là, ça dit, le peuple d'Israël regardait le visage de Moïse et voyait que la peau de son visage rayonnait. Pourquoi pensez-vous? Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Moïse recouvrait son visage avec ce voile parce qu'il ne voulait pas que les gens voient la gloire de Dieu disparaître. Mais quand on rentre dans cette dimension de l'esprit où on est vraiment connecté avec Dieu, Dieu s'apprête à se glorifier à travers son Église comme jamais auparavant. Puis il y a des gens, là, on va prêcher des choses semblables, ils vont dire « ça, c'est trop pour moi ». Mais c'est pour ça que c'est une réforme. L'Église aujourd'hui, que vous connaissez aujourd'hui, ce n'est pas l'Église de demain. Je crois que l'Église qu'on va voir, les fils et les filles de Dieu, la Bible dit que toute la création attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Mais Dieu, toute la création attend là, qu'on soit vraiment renouvelé de la gloire qu'on a perdue. La parole de Dieu nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On a tous perdu ce revêtement. On était habillés de cette lumière avant. Et dans la réforme, avec ceux qui vont vivre les signes, les prodiges, les miracles, je crois qu'on va voir la gloire de Dieu s'installer encore une fois, comme la gloire venait sur le visage de Moïse. Dans Ézéchiel 1, chapitre 27-28, ça nous parle. Vous savez, on a été créé à l'image de Dieu. Et ça dit ici, Ézéchiel, il parle de la gloire de Dieu. C'est quoi exactement? Ça dit, je vis que cette forme scintillait comme du métal brillant et qu'elle paraissait entourée de feu, au-dessus et au-dessus de ce qui semblait être sa taille. Je voyais comme du feu l'inondant de clarté. La lumière environnante ressemblait à celle de l'arc-en-ciel qui resplendit un jour de pluie. C'était le reflet de la glorieuse présence du Seigneur. Ou dans Louis II, ça dit, c'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais la face contre terre. Alors j'entendis quelqu'un me parler. Si on voit Ézéchiel, le prophète, qui a une révélation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, et a vu la gloire de Dieu. C'était l'image de la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qu'on va vivre ensemble dans cette réforme? On va aller dans des dimensions du monde de l'esprit comme l'Église n'a jamais vécu auparavant. C'est ça une réforme. Et je peux vous dire, là, il y a des gens qu'on entend leur témoignage dans certains ministères. Ils vous raconteraient des histoires, comment ils ont été téléportés en esprit et physiquement dans d'autres pays pour aller évangéliser. On dit, hey, c'est bien trop fou à croire. Mais c'est biblique. Savez-vous ça? C'est biblique. J'ai déjà fait une étude là-dessus. Mais des choses, je ne vous dis pas que vous allez être téléporté demain là, au-dessus, là, en ce moment. Non, mais il y a des choses surnaturelles. Quand les fils et les filles de Dieu sont révélés, on vit des choses glorieuses. Que la gloire de Dieu même peut apparaître quand vous parlez de Dieu. Dans Jean 8, 12, ça dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Certainement, dans notre façon de vivre, on est la lumière du monde, mais moi, je crois également que Dieu choisit de glorifier son Église avec les signes, les prodiges, les miracles, tout ça. La lumière fait dissiper les ténèbres. Dans Habacuc 2, 14, il y a une promesse ici, ça dit « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. » La connaissance de la gloire de l'Éternel, ça va vraiment recouvrir toute la terre, partout, tous les médias, ils vont parler que quelque chose se passe partout sur la terre. Les gens vont dire, il y a des gens de malades, ils prient pour les malades, il y a plein de chrétiens, ce n'est pas tous des grandes vedettes à la télévision. Non, c'est des chrétiens, ils prient pour les malades, puis il y a plein de choses qui se passent, mais pas juste les malades, il y a littéralement la présence de Dieu qui envahit. Vous savez, je vous ai déjà raconté comment on a des amis, les Kabila, dans des moments d'intercession, leur maison a été envahie par le nuage Shekinah, le nuage de la gloire qui envahit leur maison. C'est la présence de Dieu. C'est une nouvelle dimension. Ce n'est pas l'Église religieuse comme on a connue, mais c'est quelque chose de vrai, de vrai, justement. Savez-vous, des fois, on se bat, puis on essaie d'être des guerriers, puis on essaie de dire, fais pas ci, fais pas ça, ça, c'est pas correct. Et on essaie de faire plein de choses, peut-être en politique, pour essayer de changer les choses. Mais savez-vous, quand la lumière arrive dans une pièce qui est noire, la lumière fait dissiper toutes les ténèbres. Alors, si on se concentre vraiment, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'impliquer en dehors de l'Église, là, mais si on se concentre vraiment là, à avoir cette relation avec Dieu et être recouvert de sa gloire, vous allez vous promener et les ténèbres vont dissiper. Et peut-être vous l'avez déjà vécu. Vous arrivez dans votre famille, tout le monde est en train de sacrer, mais vous arrivez là et tout d'un coup, tout le monde arrête de parler comme ça. Peut-être vous l'avez vécu. Hein? Mais votre présence, vous êtes porteur de la lumière. Dans Ésaïe 59, 19, ça dit, « On craindra ou on révérera le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel mettra en fuite. » Vous savez ce texte-là? Très intéressant. Ce texte-là ici, ça dit sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Dans vos Bibles, c'est écrit comme ça. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Est-ce que c'est comme ça? Vous ne voyez pas, dans nos Bibles grecques et hébreux, dans les manuscrits plutôt, il n'y a pas de ponctuation. Tout ce que vous retrouvez dans vos Bibles, les points, les virgules, tout ça, c'était rajouté. Okay? Donc, ce texte-là, on l'a écrit dans nos Bibles, on l'a traduit comme quoi ça disait « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel mettra en fuite. » Mais ce que moi je crois, puisqu'on connaît que l'Esprit de Dieu est souvent est décrit comme étant de l'eau, du feu, de l'huile, ici on peut vraiment comprendre « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Donc, comme un fleuve, l'Esprit de Dieu va mettre en fuite l'ennemi par sa présence. C'est comme ça qu'on est victorieux. C'est comme ça qu'on gagne la victoire. C'est par la présence de Dieu parmi nous, en nous, sur nous. N'est-ce pas merveilleux? Et la victoire est assurée. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous croyez que je vous ai enseigné, c'est très simple, encore une fois, c'est dans toute simplicité, mais simplement, nous sommes dans une guerre spirituelle. L'ennemi veut nous empêcher de rentrer dans cette nouvelle dimension. Il veut même nous garder dans l'ignorance qu'on est des descendants spirituels d'Abraham. Il veut, premièrement, il veut qu'on soit malade, il veut qu'on soit pauvre, il veut qu'on soit écrasé, concerné juste avec notre sort. Mais quand on a la révélation que nous sommes des descendants d'Abraham, qu'on reçoit notre guérison, on reçoit la provision, là, on peut se concentrer sur vivre le surnaturel. Là, on peut méditer sur les grandes choses de Dieu et entrer dans le monde spirituel, recevoir des rêves, des visions, décréter la volonté de Dieu sur la terre et voir des choses se passer dans le monde. Ça, c'est un autre niveau, frères et sœurs. Mais il faut que l'Église arrive là. Et c'est ça la réforme. C'est ça la réforme où les fils et les filles de Dieu vont être recouverts une fois de plus de la gloire de Dieu. Et moi, là, ce que je veux personnellement pour ma vie, c'est moi, je veux la gloire de Dieu. Je veux la présence. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de la présence de Dieu sur nos vies. Ça, là, c'est ça qui vaut le plus de n'importe quoi. C'est la gloire de Dieu. Et ce matin, si vous avez soif de la gloire de Dieu, moi, je crois, là, vous avez simplement à dire « Oui, Seigneur ». Et pendant que toutes les têtes sont penchées, aujourd'hui, peut-être, c'est la première fois que vous entendez parler de Jésus de cette façon. Et je veux vous dire, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et Jésus, aujourd'hui, veut vous libérer. Il veut vous guérir, il veut prendre soin de vous, il veut vous emmener au ciel avec lui. Et si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, aujourd'hui, je vais vous demander simplement de lever la main là où vous êtes et dire, « Moi, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux être un enfant de Dieu. Je veux être adopté dans sa famille. Et je veux faire partie de cette armée qui gagne, cette armée qui va recevoir les choses de l'Esprit. » Et pendant qu'on prie, on va prier ensemble. Et ceux par l'Internet aujourd'hui, vous pouvez prier avec nous également. Et très simplement, on dit, « Seigneur Jésus, je me donne à toi. Je t'invite à entrer dans ma vie. Pardonne-moi de tous mes péchés. Au nom de Jésus. » Amen. Et aussi simple que ça, vous devenez un enfant de Dieu lorsque vous placez votre foi en Jésus-Christ et vous êtes en route pour le ciel. Amen. Je vais inviter l'équipe de la louange à venir. On va chanter d'autres chants pour louer le Seigneur. Et nous sommes dans cette guerre, mais heureusement, nous ne sommes pas des soldats qui ne connaissons pas l'avenir. On sait déjà la fin du livre. On l'a déjà lu, l'Apocalypse. On sait qu'on est gagnant au nom de Jésus. Amen. Et si vous êtes encore dans des combats présentement pour la santé, pour les finances, inquiétez-vous pas. Hein? Soyez pas inquiets. Jésus n'a pas perdu sa puissance. Il est encore ici aujourd'hui. Il va être avec vous toute la journée. Il va être avec vous jusqu'à la fin de vos jours pour être là, pour être votre source. Restez toujours dans la foi et recevez par la foi aujourd'hui ce que Dieu en réserve pour vous. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.